c'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire, eh bien faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, c'est La Marche des Sciences. On en a rêvé, ils l'ont fait. Ils, ce sont des historiens des sciences et des techniques qui nous offrent, sous la conduite de Dominique Pestre, une histoire des sciences et des savoirs en 3 tomes, de la Renaissance au siècle des technosciences, édité au Seuil. Une entreprise qui a rassemblé plus de 70 chercheurs, français et étrangers, hommes et femmes, qui arpente avec gourmandise l'extrême richesse de ce terrain savant, de 1500 à aujourd'hui, des savoirs d'Ancien Régime aux biotechnologies et Big Data dernier cri. On ne parlera plus désormais de la science, mais des sciences, après la lecture de ces volumes qui nous entraînent dans un foisonnement de sujets et qui s'articulent autour de grands thèmes comme les sciences et les savoirs en société, politique et culture, les champs de sciences eux-mêmes, les sciences comme outils de gouvernement ou encore les continents des savoirs scientifiques, les mondialisations. Une œuvre magistrale de la part de ces historiens des sciences qui ne sont pas moins conscients des chantiers à engager pour demain afin de poursuivre l'aventure et continuer à écrire cette histoire des sciences en majuscules. Avec nous pour en parler en direct du studio 158, Dominique Pestre, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales au Centre Alexandre Coiré, Stéphane Vandamme, professeur d'histoire des sciences au département d'histoire et civilisation à l'Institut universitaire européen de Florence, et Kapil Rai, historien des sciences également et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et aussi au Centre Alexandre Coiré. Une première partie émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales. Et puis, en seconde partie d'émission, en partenariat avec le magazine Pour la Science et à l'occasion de la parution du numéro spécial Einstein, la relativité générale 100 ans après, nous serons en duplex depuis nos studios de France Bleu Tour avec Loïc Villain, maître de conférence à l'université François Rabelais et au laboratoire de mathématiques et de physique théorique de Tours. Il est l'auteur avec Damir Busculique d'un article intitulé « À l'écoute des ondes gravitationnelles », l'histoire de ces ondes dont parlait déjà Einstein, des ondes qui parcourent l'espace-temps et que les physiciens tentent de détecter aujourd'hui du côté d'étoiles à neutrons ou du côté des trous noirs grâce à des interféromètres géants. De l'idée à la réalité, on en parle tout à l'heure. Mais tout de suite, l'histoire des sciences et des savoirs, et petit retour en arrière avec la voix d'un des défenseurs de l'histoire des sciences, René Tatton.
Un scientifique ne peut bien comprendre, à mon sens, l'évolution de la science actuelle que s'il a quelques indications sur le passé de cette science. Et de telles indications doivent lui permettre non seulement de mieux comprendre la science actuelle, mais aussi de deviner un peu quelles sont les lignes directrices de l'avenir. Quant aux philosophes, on ne peut pas exclure de leur domaine l'évolution des idées scientifiques. Une philosophie qui ne tiendrait pas compte du fait scientifique serait bien pauvre. Quant à l'histoire, eh bien de plus en plus, elle fait une place aux techniques et aux sciences. Notre civilisation est à coup sûr de plus en plus à base scientifique et technique. Mais si l'on réfléchit sur le passé, on s'aperçoit qu'au XIXe siècle déjà, le fait scientifique et le fait technique ont joué un rôle considérable. Et cette constatation s'étend beaucoup plus loin quand on remonte dans le temps.
Bonjour Dominique Pestre.
Bonjour.
Bonjour Kapil Raj.
Bonjour.
Et bonjour Stéphane Vandamme, vous êtes au téléphone depuis l'Italie, depuis Florence.
Bonjour.
Alors vous venez d'entendre tous les trois cette voix de René Tatton, il faut le replacer peut-être un petit peu dans cette histoire, directeur de recherche au CNRS, directeur de la publication Histoire générale des sciences aux presses universitaires de France, et donc on l'entendait ce 30 décembre 1965 dans l'émission Magazine des sciences, et justement un magazine des sciences qui consacrait son numéro à l'histoire des sciences. Beau témoignage en tout cas qui résonne très fortement aujourd'hui, Dominique Pestre.
Oui, il était aussi le directeur du centre Coiré.
Oui, exact.
Oui, c'est ce qui est frappant, c'est que on voit bien que c'est le rôle des sciences qui l'intéresse. C'est-à-dire, nous sommes dans un monde, il y a un monde social, il y a un monde économique, il y a un tas de choses. Et puis, dedans, il y a cette chose extérieure, en quelque sorte, qui arrive et qui joue un rôle. Mm. Et donc, par rapport à ça, c'est vrai que nous sommes un peu décalés. C'est-à-dire, oui. nous prenons d'emblée comme point de départ que ce n'est pas une entité que nous connaissons bien. C'est-à-dire qu'elle est elle a plusieurs sens suivant les personnes, elle change autour du temps. D'ailleurs, on n'emploie pas toujours le vocabulaire de science au singulier, au pluriel. C'est pour ça que nous parlons d'histoire des sciences et des savoirs, et pas uniquement histoire des sciences. C'est pas simplement son rôle qui nous intéresse, mais c'est de comprendre en quoi elle est toujours déjà prise dans le social, dans l'économique, dans le politique, et qu'elle n'est... On ne peut pas la séparer a priori pour voir son rôle, il faut la saisir. C'est plus intéressant de l'apprendre anthropologiquement de l'intérieur, si je puis dire.
Et oui, donc c'est pour ça que 50 ans après les propos de Tatton, aujourd'hui on a franchi d'autres pas et on a un tout autre regard. Vous allez le comprendre aujourd'hui dans cette émission justement de la marge des sciences, un autre rapport à cette histoire des sciences et des savoirs. L'ambition de départ, Dominique Pestre, parce que on vous doit cette envie justement de proposer une nouvelle histoire des sciences et des savoirs.
Oui, la proposition que j'avais faite au Seuil était que ça pouvait être. Je pensais encore qu'on vendait facilement des ensembles de 3 volumes, 4 volumes, comme autrefois. On m'a dit que c'était pas vrai, mais néanmoins, ils ont accepté que je le fasse. Donc, je leur en suis infiniment reconnaissant. Et effectivement, j'ai constaté qu'il y a eu un trou dans la période récente. On n'a pas eu ce genre de grande entreprise. Donc, je suis très content et je les remercie très sincèrement. Ils ont fait vraiment un très beau travail. Les volumes sont beaux. Je veux dire, c'est d'une qualité de fabrication qui est vraiment extraordinaire. Je tenais à le dire parce que c'est vraiment le cas et les gens avec qui on a travaillé étaient extraordinaires. L'idée, c'était de leur dire ça, c'est de leur dire la manière dont on a pensé les sciences dans les milieux professionnels comme les nôtres depuis 40 ans, on a complètement transformé. On s'est posé la question, est-ce qu'il y a une évidence de cette chose qu'on appelait science, que René Tatton appelait science à l'état, je dirais, naturel. Et de leur dire, ce que nous avons fait, nous avons transformé notre vision des sciences en travaillant à partir d'une infinité de cas, d'une infinité de situations, en entrant en profondeur dans les descriptions, on va dire. Ouais. C'est-à-dire, on a privilégié l'anthropologie sur la chronologie. On peut dire comme ça. Or, ce qui me semblait intéressant, c'est pour des gens qui ont complètement privilégié l'analyse en profondeur et l'anthropologie sur le temps, est-ce qu'on pourrait maintenant essayer quand même, malgré tout, de remettre ça dans des perspectives longues. Et dans ce cas, comment on écrit une affaire pareille? Parce que ça n'a rien d'évident. Si on dit l'histoire, elle est partout, la science est partout et elle se remplit du social, à ce moment-là, on écrit une histoire totale. Donc, on sait bien que c'est pas possible. Donc, il fallait inventer un dispositif qui fait que nous ne perdions pas la richesse des histoires, mais que nous ayons un moyen de sentir des évolutions large, au fil du temps, avec des chronologies diverses.
Et de s'ancrer dans cette histoire longue, dans le temps, long, comme vous dites, parce que justement, c'était un petit peu le reproche qui était fait à l'histoire des sciences par rapport à l'histoire dans sa globalité. On aura l'occasion d'en reparler dans l'émission. Stéphane Van Damme, je me tourne vers vous, parce que vous êtes donc le premier à vous être attelé à la tâche, peut-être pas, mais en tout cas, le premier volume, c'est vous qui l'avez dirigé, hein, de la Renaissance aux Lumières, donc cette histoire des sciences et des savoirs. Donc, c'est vrai que dans cette introduction d'ailleurs des volumes, on explique très clairement que pour écrire cette histoire, il faut, je le dis, hein, penser au-delà des idées, concepts et théories, viser les réalités sociales et culturelles ou les jeux de pouvoir politiques et économiques qui les enserrent, penser les savoirs du Nord comme ceux du Sud, les guerres, le commerce, les productions de biens, la finance, la géopolitique, en bref, penser, et ça ce sont les propos j'imagine de vous Dominique Pestre, penser un tissu sans couture qu'il faut toutefois décomposer sans trop le réduire ni le trahir. Alors Stéphane Van Damme, quand on vous a proposé cette perspective, vous avez réagi comment?
Alors c'est vrai que nous sommes partis d'un questionnaire commun aux 3 volumes, ce qui fait qu'il y a une unité hein, dans la lecture je pense, mais que pour chaque période il a fallu décliner, si j'ose dire, le questionnaire. Alors, évidemment, concernant le premier volume, le point de départ était de proposer une vision alternative ou déjà critique des récits fondateurs de l'histoire des sciences à l'époque moderne, qui sont souvent identifiés à la notion de révolution scientifique. Donc, avec des éléments caractéristiques comme une histoire attachée au grand génie, une histoire héroïque, hein, une histoire aussi d'un affranchissement de la science par rapport au dogmatisme, à la religion, une histoire où le poids des disciplines scientifiques contemporaines était encore très marqué, hein, du temps de René Platon, avec aussi le poids du paradigme physico-mathématique, hein, de l'astronomie comme centre de gravité de cette révolution scientifique. Alors nous, on a voulu, au contraire, d'une certaine manière, entreprendre une contextualisation plus radicale, en mettant l'accent sur d'autres dynamiques. Pas forcément la continuité, hein, donc d'où la notion d'ancien régime des sciences et des savoirs, hein, essayer de contextualiser pour sortir d'une histoire, on va dire, par le haut, et pour donner une description la plus dense possible des pratiques scientifiques.
En tout cas, une histoire, hein, qui, effectivement, pense à partir de différents points, différentes entrées, à partir des lieux, à partir des gens, à partir des espaces physiques et sociaux, pour rendre vraiment aussi cette vitalité et cette richesse du monde. Allez, première plongée dans les archives sonores de l'INA, qui vont justement nous remettre un petit peu en perspective toutes ces histoires qui frétillent, qui sont là et qui ont fait justement ce temps de la Renaissance aux Lumières.
Supposons que ce guéridon soit le soleil. Assieds-toi sur cette chaise. Voilà, je me place derrière toi. Où est le soleil? À droite ou à gauche?
À gauche.
Et comment passera-t-il à droite?
Bah, si vous le faites passer à droite, naturellement.
Seulement dans ce cas-là? Mais si je te soulève avec la chaise et te fais faire un demi-tour, où est le soleil maintenant?
À droite.
Et il a bougé?
Ah non, bien sûr.
Qu'est-ce qui a bougé?
Moi?
Mais non, crétin, la chaise!
Et moi avec?
Évidemment, la chaise, c'est la terre et tu es installé dessus.
Qu'est-ce que vous faites au juste avec mon gosse, monsieur Galilée?
Mère Sartige, je lui apprends à voir.
Vous ferez si bien avec Andrea qui finira par dire que 2 et 2 font 5. Déjà, il embrouille tout ce que vous lui dites. Pas plus tard qu'hier soir, il voulait me prouver que la terre tourne autour du soleil.
Stéphane Vandamme, vous avez entendu cet extrait donc de la fiction La vie de Galilée, hein, diffusé le 15 février 1964 sur France Culture. On reste vraiment dans des archives qui remontent à 50 ans. Hein. C'est pas forcément volontaire, mais ça dit peut-être beaucoup. On va en parler pour l'histoire des sciences. Et donc voilà, ça me ramène à vraiment ce choix de la chronologie, parce que ce choix de la chronologie, démarrons avec vous sur ces 3 tomes au regard de l'histoire générale du monde. C'est pas facile. Il y a aucune périodisation n'est sans problème. Alors dans votre cas, qu'est-ce que vous avez justement privilégié comme choix?
Alors, c'est vrai qu'en utilisant l'expression ancien régime, on privilégie d'abord une périodisation sur 3 siècles, hein, et on utilise une périodisation qui est davantage peut-être historienne qu'historienne des sciences. C'est-à-dire, on essaye de voir dans quelle mesure aussi on a affaire à des continuités, pas simplement à des innovations radicales, et à montrer que les choses sont en tension, hein, d'une certaine manière, entre des sciences ou des savoirs qui se réclament encore d'un héritage médiéval ou antique, et des pratiques qui sont résolument tournées vers un régime de l'innovation, de la découverte. Donc là, c'est vraiment faire ressortir cette complexité d'une certaine manière, en mettant ces différents régimes de pratiques, non pas en les faisant se succéder, si j'ose dire, mais en les mettant en tension autour d'un certain nombre de thèmes, d'acteurs. L'idée aussi est de repeupler l'univers des sciences en y ajoutant des artisans, des militaires, des administrateurs, des religieux, des femmes.
Oui, des acteurs et des intermédiaires dans cette histoire-là.
Beaucoup plus riche, hein, d'une certaine manière, de ce monde, de cet univers des sciences sous l'Ancien Régime.
En sachant, je le précise, que donc votre volume numéro 1 couvre donc de part de la Renaissance et va jusqu'à 1770. C'est vrai que spontanément, nous, on aurait mis 1789.
Alors ça, c'est vrai que c'est un choix. Alors, évidemment, les chronologies sont relatives, hein. Il y a des chevauchements du chapitre 1 au chapitre 2, du chapitre 2 au chapitre 3,
oui.
Et il y a des glissements, et en fonction des disciplines scientifiques, des espaces qui sont considérés, des pratiques, on a effectivement des chronologies différenciées. Et ça, c'est me semble-t-il, assez important à souligner.
Alors Kapil Raj, justement, vous, ce volume 2, Globalisation, sciences et modernité, de la guerre de 7 ans à la Grande Guerre.
Oui, justement, c'était, quand Dominique m'a parlé, évoqué la possibilité de diriger ce volume avec Otto Ziboum. Mm-hmm. En fait, ce qui nous a frappé, ce qui m'a frappé particulièrement, c'était le titre de provisoire que Dominique, à l'époque, mettait en avant. C'est-à-dire, le titre, c'était « Histoire des sciences modernes ». Bon, du 16e oui. au 21e siècle.
Oui.
Mais,
oui.
Alors, ce qui était très frappant, c'était les trois termes. « Histoire, science et moderne ». Et le fait qu'il demande, en fait, il nous invite à diriger un tome sur le 19e siècle. Or, ce qui frappe, en fait, c'est que les trois termes ou les acceptions que nous donnons à ces trois termes aujourd'hui sont en fait nées, sont inventées au cours du 19e siècle. D'ailleurs, le sens que nous donnons même au passé de l'histoire ou de la modernité ou des sciences est vraiment né là. C'est-à-dire que c'est un prisme qui est créé au 19e siècle, qui éclaire à la fois le 19e, mais aussi son passé et aussi, en fait, l'avenir, c'est-à-dire le 20e, le 21e siècle, on est toujours dans un vocabulaire qui... Et c'était ça qui nous a attirés. En plus, bon, pour moi particulièrement, qui suis en fait un historien des espaces européens, mais extra-européens aussi en même temps, c'est-à-dire qui voit les circulations, les connexions, et la fabrication, en fait, des savoirs et des sciences.
Entre le nord et les suds, comment
si vous voulez dire ça comme ça, de oui. façon oui. Politiquement correcte, oui. je veux bien, mais oui, c'est-à-dire que ce sont des espaces de circulation oui. qui sortent de des espaces convenus. Parce que la science est normalement un espace, bon, se fait dans un espace européen. Occidental, dit-on.
En tout cas, c'est ce qu'on donnait à voir, à entendre et à lire jusque-là. Et aujourd'hui, oui. ce n'est plus du tout ça avec cette histoire des sciences et des savoirs. Hein, Dominique
Pestre,
justement, vous ouvrez complètement une sorte de globalisation, de mondialisation tous les échelons, toutes les échelles, mais surtout de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est formidable.
Oui, oui. Non, c'était à partir du moment, enfin, pour reprendre aussi bien ce que disait Stéphane que ce que vient de dire Kapil, si on comprend qu'il n'y a pas une essence de ce qu'on appelle la science et qui était, par exemple, chez René Tatton, au fond, les sciences physiques. C'est ce que nous a rappelé Stéphane tout à l'heure. Si on n'est pas dans ce sens-là et qu'on comprend que les sciences incluent peut-être aussi l'histoire naturelle, l'histoire des plantes, la cartographie, la géographie, l'anthropologie, l'enseignement des langues, et puis etc., etc., la liste est très, très longue.
Pardon ? L'ethnographie.
À partir de ce moment-là, on comprend bien que ce qui se passe et cette refonte des savoirs qui opère, elle n'est pas indépendante des différentes globalisations qu'a connu notre espace depuis le début de l'époque moderne. Donc, il y a dans chacun de ces moments une forme de globalisation différente. Et donc, forcément, nous comprenons bien que c'est dans cette diversité des espaces et à travers la variété des institutions, que quelque chose advient. C'est pas simplement une invention du cerveau de quelques Européens brillants. C'est un petit peu plus compliqué, quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'individu. Je ne suis pas en train de dire qu'Einstein n'est rien. Enfin, c'est pas mon propos. Hein, nous sommes d'accord.
Non, bien sûr. Et c'est pour ça que vous avez cherché effectivement à mettre en avant ces lignes de force. En tout cas, vous écrivez, hein, Dominique Pestre, dans l'introduction, si je ne m'abuse. L'idée centrale de ce travail est donc de prendre à bras le corps une gamme de questions souvent marginalisées dans les grandes histoires des sciences. Et donc, du coup, on veut vous demander lesquelles, et est-ce que ce sont justement ces gammes de questions qui sont à l'origine du choix justement de la structure des volumes ?
Alors, Kapil disait qu'effectivement, nous avions un nom de code. J'avais mis un nom de code qui était « Histoire des sciences modernes », qui était un nom de code d'une certaine façon, de la première proposition au Seuil.
Oui.
Je pensais qu'au Seuil, il fallait que je leur vende une histoire des sciences, parce que c'est ça qu'ils voulaient, d'une certaine façon. Finalement, ils ont accepté cette forme, et je les en remercie, et c'est pas ce qu'ils, peut-être, avaient cru exactement au départ. Et là-dedans, effectivement, la variété des savoirs nous apportait. Je retrouve là, parce que depuis que j'ai... que nous avons terminé, je suis retrouvé un certain nombre des tableaux que j'avais faits au tout début. Par exemple, vous voyez, il y avait toute une section toujours qui se retrouve dans le volume 1, dans le volume 2 et que nous avons distribué dans le volume 3, qui tourne autour des globalisations et des échanges globaux. D'accord? Et je vois là, je me posais des questions. Quels sont les lieux et institutions de sciences globales? Voilà. Donc je disais, par exemple, pour l'époque moderne, on pourrait dire les jésuites ou les compagnies commerciales. Compagnie des Indes. Mais alors, qu'est-ce que ce serait pour le troisième volume? Alors, je mettais, ça peut être les ONG, les think tanks ou la Banque mondiale, par exemple.
Ouais.
Et qu'est-ce que ça pourrait être, etc. Et on peut décliner de cette façon. Donc, vous voyez, si c'était... On voulait quelque chose de très matériel aussi. Donc, par exemple, les lieux. Donc, je disais, c'est quoi le lieu symbolique pour l'époque moderne? Si on l'imagine, ça peut être le jardin, ça peut être le cabinet de curiosité, par exemple. Mais pour vous, ça pourrait être l'observatoire et l'université
Exactement.
Allemande.
Exactement.
Bon, mais qu'est-ce que ce serait pour nous? Ce serait par exemple le laboratoire industriel, quand je dis nous, c'est le troisième volume.
C'est
ou
ça,
alors les grandes institutions du genre CNRS ou Kaiser Wilhelm Gesellschaft. Vous voyez? Donc, on a construit la chose comme ça, et de cette façon, on avait la possibilité d'avoir des tas de récits pleins de densité, pleins de vie, et en même temps de signaler des mutations majeures.
Oui, c'est-à-dire garder de volume en volume des grandes rubriques et des grandes lignes de force et montrer que de siècle en siècle, on retrouve ces lignes de force parce que justement cette histoire des sciences prend place dans un temps long, une histoire longue, même si elle évolue, elle se transforme, elle se peaufine et elle s'enrichit. Donc d'où des grandes rubriques, hein, Dominique Pesce, les sciences et les savoirs en société, politique et culture, les champs de sciences eux-mêmes, les mondialisations et les modalités de fabrication de soi et des autres, et puis les sciences comme outil de gouvernement. Alors ce qui est intéressant, c'est que on retrouve dans ces volumes aussi, on le disait, hein, plus de 70 contributeurs, historiens français et étrangers, hommes et femmes, hein, 40% de femmes, dans un univers d'histoire des sciences qui est souvent plus masculin que féminin quand même, et ça dit peut-être aussi que là il y a un autre changement et une féminisation sur ce terrain de l'histoire. Et bien sûr, vous n'avez pas forcément demandé des articles qui sont le résultat de recherches entreprises depuis des années, mais il y a aussi des essais.
Oui, on tenait beaucoup à ça, c'est-à-dire il y a, en gros l'idée c'est autour d'un objet, par exemple l'émission au XVIIe siècle. Voilà, ça c'est un objet pour dans le volume 1, par exemple, la mission. Donc voilà, on donne un objet et à partir de là, l'idée c'est de faire que l'auteur se sente à la fois libre de donner une lecture du phénomène et en même temps de montrer par des tas d'exemples ça. Comment c'est riche, c'est ça qui nous intéresse, ne pas abandonner la dimension ethno-anthropologique, ne pas abandonner la dimension de distribution culturelle ou géographique, et en même temps quand même leur dire, vous êtes libres, donnez-nous une vision, dites-nous quelque chose de... Donc c'est dans ce jeu-là que nous avons en général négocié avec les auteurs. Ensuite, vous savez, parfois ça marche mieux et parfois ça marche moins bien.
Alors, Stéphane Van Damme, je vais revenir vers vous dans un instant. On va auparavant, écouter une autre archive sonore de l'INA, Hiroshima, communiqué américain, 6 août 1945.
In his plane is the first atomic bomb. Destination, Hiroshima.
We are delaying the start of our scheduled program to bring you the latest direct report on the atomic bomb attack on Japan. CBS World News takes you now to Guam. Webley Edwards reporting.
The men who have applied the greatest weapon ever developed, the atomic bomb, are close-mouthed, serious, and highly impressed with the world-shaking magnitude of what they've done.
Stéphane Van Damme, donc les uns et les autres, hein, dans les différents volumes, on sent qu'il y a la présence de ces historiens étrangers. Et moi, je sais que au fil comme ça de mes lectures, j'ai une question qui me taraudait. Je me suis demandé, mais est-ce qu'on fait une histoire des sciences et des savoirs différemment, selon le pays d'origine? Parce que ça se pose aussi, cette question-là, en France et à l'étranger, et notamment d'où cette archive symbolique, ce communiqué américain, entre la France et les pays anglo-saxons, parce qu'on sait que la relation à l'histoire des sciences n'est pas la même dans ces pays-là. Stéphane Van Damme.
Alors, c'est vrai que dans cette volonté, si j'ose dire, dans le, de recrutement, d'opérer une sorte de politique, politique des auteurs, hein, comme on disait dans les cahiers du cinéma jadis, il y avait cette volonté de maintenir une forme de pluralisme. Pluralisme interprétatif, pluralisme aussi géographique. Donc c'est vrai que il est traditionnel en histoire des sciences d'avoir un monde anglo-saxon, anglo-américain très très dominant. On a essayé quand même aussi de faire valoir des approches venant d'autres pays. Pour le volume 1, il est certain, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui le paradigme ibérique, c'est-à-dire l'étude des sciences dans l'Empire espagnol et portugais, compte beaucoup dans la relecture de la question de la révolution scientifique, par exemple. Donc, ne pas avoir une vision encyclopédique, hein, comme pourrait le faire un dictionnaire, mais plutôt montrer une pluralité de points de vue et une pluralité de méthodes. Alors, on a des historiens qui sont plutôt de formation philosophique, des historiens des sciences qui sont plutôt scientifiques, et d'autres qui seraient plutôt historiens, si je veux dire. Donc, montrer la richesse, hein, de ce tissu et la créativité aussi, hein, dans les propositions et dans les relectures qui sont faites.
Kapil Raj, alors justement sur cette question-là que je posais, c'est-à-dire on fait une histoire des sciences ici, enfin en France, tout en convoquant dans les différents volumes des chercheurs et des historiens étrangers, et en même temps c'est vrai que notre rapport à cette histoire des sciences est très particulier en France quand même.
Oui, c'est en fait, je suis bien placé pour le savoir, moi-même d'origine indienne, je suis ici en France depuis 40 ans. D'ailleurs, j'étais formé en histoire des sciences. Je me suis formé ici, mais avec mes questions en même temps. Donc, il y a à la fois une certaine convergence, mais en même temps une divergence, une tension qui existe. Et c'est cette tension aussi que j'ai voulu mettre en avant. Déjà, tous les deux, nous co-directeurs, les deux directeurs de ce volume, nous sommes étrangers, pour ainsi dire,
allemand. Otto Siboum.
Otto Siboum, qui lui est allemand, mais oui, qui est professeur en Suède. Donc, il y a pour tous les deux cette tension. Chacun voit que l'histoire des sciences n'est pas fabriquée, n'est pas faite, n'est pas approchée de la même manière.
Et oui, reçue de la même manière
non, oui, plus. Et nous avons voulu justement préserver ça. D'ailleurs, dans notre section sur produire l'altérité, nous sommes 4 sur 5 qui sont en fait, qui représentent des ères et des cultures scientifiques ou savantes différentes. D'ailleurs, nous avons aussi voulu que, par exemple, on parle toujours des Anglo-Américains, mais que les Américains, au XIXe siècle, n'étaient pas ni Anglais, ni Européens pour autant. C'est-à-dire, ils se distinguaient. Ils faisaient tout pour se distinguer. D'ailleurs, ils ont créé une histoire, une historiographie, pour dire qu'ils n'étaient pas Européens. Et justement, c'est ça que nous avons voulu aussi mettre en avant, que quoi que le monde se connecte de plus en plus, qu'il y a de plus en plus une densité de connexion entre les choses et des espaces, qu'il y a aussi des distinctions qui se créent en même temps que les connexions et dans les connexions, que les deux choses ne sont pas pareilles. C'est pas parce qu'il y a des McDonald's partout que tout est pareil.
Oui. Dominique Pestre. Alors, à la fois s'ancrer et en même temps, c'est la richesse des volumes aussi. Hein.
Disons, il y a des sensibilités forcées, nécessaires, des sensibilités qui tiennent par exemple de quelle zone géographique ou de quel univers politique vous venez. Moi, j'ai bien connu au moment de la chute du mur l'arrivée de nos collègues ex-soviétiques devenus russes ou ukrainiens. Ça donnait des choses très très différentes. Ils vivaient dans des mondes très différents de nous, et ce sont des réalités. Donc ça, on les retrouve bien Si on prend l'exemple de l'Inde, tout simplement, il y a l'article de Kapil qui porte dans le volume 2 sur Calcutta. C'est-à-dire, il est centré sur Calcutta. Et tout de suite, évidemment, c'est pas pareil que de le centrer sur Paris, Londres ou Amsterdam. On voit d'un seul coup, les problèmes ne sont pas les mêmes. Et ce qui est à résoudre, c'est des tas d'autres choses. Par exemple, la traduction devient absolument vitale, les langues deviennent vitales, la confrontation des droits qui sont du droit au sens oui. La loi. Mais nous avons dans le troisième volume demandé à Viswanathan de nous faire un article sur c'est quoi cette science que mobilise l'état développementaliste indien après 47. Et pour faire ça, il est revenu très en arrière pour nous montrer la complexité des traditions qui définissait autrement ce qui était de l'ordre des savoirs, des sciences, des techniques, oui, oui. des savoir-faire.
Oui, parce que ça ne part pas de rien, voilà. Ou juste d'un instant i. Voilà.
Voilà. Et donc, si vous voulez, ça c'est... Ensuite, il y a nos sensibilités à nous, que ce soit de nous cinq, je crois, nous avons, après tout, ma thèse elle-même, il y a fort longtemps, portait sur en quoi ça veut pas dire la même chose faire de la physique dans les années 20 et 30 en France par rapport à l'Allemagne ou par rapport aux États-Unis. Donc déjà, ma question n'était pas la règle de la physique en général, mais ce en quoi on est dans un lieu, on vient de quelque part. Alors pour nous, pour le 20e siècle, on a réorganisé en partie le plan, parce que comme tu le disais, les densités avaient atteint déjà un tel point de circulation qu'on était dans des situations un peu différentes.
In there to die. One by one we tumble. One by one we fall. If I had a solution, now, honey, I would fix us all. 'Cause I believe in a world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man pride. I have seen the darkness. Lord knows I've seen the light. Don't recall the Lord saying there's a difference if you're black or white. 'Cause I believe in a world where we all belong. And I'm so tired of seeing every good man gone.
Quelle belle voix, Mélodie Gardot. Witcherman, et c'est le choix de notre réalisatrice Alexandra Malka. Aujourd'hui, il est 14h33, presque 34 sur France Culture. C'est la suite de La Magie des Sciences en direct et en compagnie de Dominique Pestre, directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales au Centre Alexandre Coiré, et qui a dirigé l'Histoire des Sciences et des Savoirs, tout juste paru aux éditions du Seuil en 3 volumes. Cette histoire de la Renaissance à aujourd'hui et à ses côtés, Kapil Raj, historien des sciences, comme tous nos invités d'ailleurs aujourd'hui, directeur d'études à l'EHESS également, et au téléphone depuis l'Italie, Stéphane Vandamme, professeur d'histoire des sciences au département d'histoire et civilisation à l'Institut universitaire européen de Florence. Et depuis le début de cette émission, nous vous proposons une plongée dans la fabrique de cette somme à laquelle ont contribué plus de 70 chercheurs et historiens des sciences, en tout cas et des volumes qui nous montrent une autre image du scientifique, non plus forcément dans sa tour d'ivoire inaccessible, la diversité extrême des sujets de recherche, et montre avoir une certaine totalité, la variété, la complexité justement sur cette histoire des sciences. Alors histoire des sciences, allez, dernier son, René Tatton à nouveau, on l'écoute, directeur de recherche au CNRS, directeur de la publication Histoire générale des sciences, c'était le directeur du centre Alexandre Coiré, et il s'exprime toujours dans cette émission Magazine des sciences du 30 décembre 1965.
Pour tenter d'expliquer l'histoire des sciences à l'honnête homme, quatre idées directrices s'imposent. Tout d'abord, il est indispensable de replonger le développement scientifique dans l'histoire de l'humanité. Le savant est d'abord un homme, et le progrès de la science s'inclut nettement dans l'évolution générale de l'humanité. L'histoire des sciences apparaît ainsi comme une branche de l'histoire générale. Une seconde idée est que l'évolution des divers domaines de la science est liée de façon très intime. On ne peut pas expliquer l'histoire des mathématiques de façon autonome sans faire appel à des éléments touchant à l'histoire de l'astronomie, à l'histoire de la physique et même à des aspects de l'histoire intellectuelle ou même de l'histoire générale.
Eh bien voilà, ça nous place justement sur cette question cruciale, place de l'histoire des sciences dans le paysage de l'histoire. Stéphane Vandamme, on y pense quand on entreprend ce genre de volume justement ?
Ben oui, c'est certain que une des ambitions était aussi d'intéresser le public de disciplines historiques et les départements d'histoire. Peut-être avec une volonté de séculariser définitivement l'histoire des sciences, c'est-à-dire d'une certaine manière de l'écrire aussi avec des préoccupations de l'historien et plus simplement du scientifique, par exemple. Donc là, c'est vraiment la différence radicale, peut-être, avec ce que l'entreprise de René Tatton. Mais aussi, je pense que l'idée était d'essayer de poser la question de savoir comment on écrit ce récit, cette histoire des sciences aujourd'hui en 2015. Et ça, c'est évidemment une réflexion aussi historiographique qui a été engagée depuis une vingtaine d'années et qui nous permet aujourd'hui, d'une certaine manière, de proposer non pas simplement une déconstruction, mais aussi un certain nombre de pistes de recherche ou de pistes pour écrire cette histoire et recomposer d'une certaine manière un tableau d'ensemble.
Dominique Pestre, alors je pense qu'aujourd'hui il n'est plus utile de montrer que la science est partout dans l'histoire, mais en même temps, l'histoire des sciences, combien de divisions ? Là, vous avez sorti les blindés quand même.
Ah oui, non, là on
même
a
pas
fait,
l'artillerie.
Là, on a fait très sérieux. Non, ce qui me fascine dans le propos de Tatton, c'est d'abord le sens de général. Et c'est vrai que je me suis toujours posé la question, et je ne sais pas finalement pourquoi il n'écrit pas une histoire des sciences, mais une histoire générale des sciences. Il y a quelque chose de... Ça, c'est la chose, et que, évidemment... Mais tout ça, c'est... Ça correspond très très bien à la fin des années 50, au milieu des années 60, lorsqu'il est interviewé. Mais, et puis l'autre chose, c'est qu'il s'adresse à l'honnête homme. Et ça aussi, c'est intéressant. Plus personne ne s'adresse à l'honnête homme aujourd'hui. Donc ça me renvoie... Nous nous sommes posé la question de notre lectorat.
Hein, et, eh oui, sûrement.
Et on s'est dit... les historiens. Ça, c'est évident que nous adressions aux historiens. Nous adressions aux historiens des sciences. Mais nous nous adressions aussi d'une certaine façon, je ne sais pas comment on dirait nous aujourd'hui, mais à une audience plus large. Mais c'est vrai que je n'aurais pas dit que notre histoire est générale et je n'aurais pas dit qu'on s'adressait à l'honnête homme. Bon, ce qui prouve simplement que nous vivons dans un monde très différent qui n'a pas de supériorité par rapport à celui de René Tatton. Mais ça, c'est frappant.
Et en même temps, la place occupée par le monde des sciences au quotidien doit jouer un rôle sur l'engouement de jeunes historiens, d'historiennes pour l'histoire des sciences. Vous devez le sentir, ça, Dominique Pestre, non ? On pense notamment au terrain fructueux en matière d'études sur l'environnement et le climat, par exemple, typiquement.
Ah oui, non, non, moi qui enseigne maintenant depuis le milieu des années 80, donc ça me fait quand même donc 40 ans, 30 ans, mm-hmm. 30 ans, ouais, 30 ans d'enseignement, de doctorant, de masterant, etc. C'est évident qu'en 1980, je recevais encore principalement des scientifiques qui faisaient de la biologie moléculaire ou de la physique quantique, et ils voulaient faire ça. Et qu'aujourd'hui, nous avons, ça c'est le plus intéressant au Centre Coiré, nous avons toute la palette. Nous avons des philosophes, des historiens, des sociologues, des politistes, des scientifiques, des matheux, des physiciens, des biologistes, et beaucoup de gens qui viennent des écoles d'agro, qui ont fait de l'environnement. C'est-à-dire, on voit bien que le public que nous recevons est beaucoup plus équilibré entre les sciences et les lettres, et nous avons absolument de tout. Ce qui rend les cours absolument extraordinaire. Et surtout, il n'y a plus... Le côté monomaniaque a complètement disparu aujourd'hui. Ça, c'est... Et dans ce sens, nous le reflétons bien. C'est-à-dire, peut-être que nous le modelons, mais nous le reflétons aussi dans ces volumes.
C'est pour ça que, même s'il ne porte pas cet adjectif de général, Dominique Pestre, en même temps, c'est une histoire des sciences et des savoirs qui s'adresse à un plus large public, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a toutes ces entrées, et il y a l'humain, il y a les hommes en situation, il y a les lieux, il y a les places. Donc, la richesse doit certainement intéresser au-delà des historiens, même des sciences. Alors, il nous reste 5 minutes quand même pour pouvoir justement se poser une autre question. Quels sont les terrains délaissés ? Parce que ce genre de livre révèle aussi ce qu'il reste à faire. Et c'est là, et c'est entre les lignes. Alors, Kapil Raj, dites-nous, vous, par exemple, sur la période du volume que vous avez pu justement embrasser.
Oui, bon, bien sûr, il y a des larges aires géographiques que nous n'avons pas touchées, nous ne pouvions pas. Mais il y a aussi des domaines, on aurait bien voulu un peu plus sur les sciences dites de l'esprit, le monté de ce qui va devenir à la fin du 19e, début 20e siècle, la psychologie, psychanalyse. Bon, il y a quand même Charcot avant, finit par Freud.
Oui. Bon. Mais là, il y a du travail à faire encore.
Mais il y a quand même un choix, c'est-à-dire qu'il y a un nombre fini de pages, il y avait un nombre fini d'articles. On aurait bien voulu un peu plus sur les sciences humaines et sociales, quoique les sciences humaines et sociales sont assez distribuées à l'intérieur. Nous avons des gens comme Norton Wise qui, justement, en parlant de l'énergie et de la physique des hautes énergies, en fait, le lie directement à la question de l'économie politique. L'archéologie est liée aussi au travail de l'homme du 19e siècle, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses qui nous manquent, effectivement. Mais, bon, il y a des choix, comme je dis, à opérer. Il y a aussi le fait que, des fois, on ne trouve pas, moment donné, l'auteur qui n'est pas libre, tout simplement.
Stéphane Vandamme, de votre côté, alors, sur ce volume de la Renaissance aux Lumières, les manques, ou si vous aviez vraiment un appel à contribution à lancer, mais en sachant qu'il y a vraiment tout le travail de recherche à faire derrière.
Alors, c'est vrai que peut-être qu'on a été moins attentif, par exemple, à des sciences traditionnelles comme... alors, on a cherché quelqu'un sur la théologie, mais finalement, on n'a pas réussi à avoir le chapitre. Mais le droit, par exemple. C'est vrai que le droit, qui est une des grandes ressources théoriques pour penser la culture expérimentale au XVIIe siècle... Ben le droit manque, en fait. Hein. C'est vrai que bon, ça fait partie des choses qu'on aurait pu ajouter. Donc peut-être que effectivement, comme l'a dit Kapil Raj, il faut pas s'en tenir simplement aux entêtes de chapitres. Il y a effectivement à l'intérieur des chapitres des disciplines, des acteurs qui sont présents et qu'on aurait pu davantage travailler, mais globalement, ce qu'on a voulu faire, c'est aussi indiquer un certain nombre, mettre en avant davantage les problématiques, les questions, et du coup, et les échelles aussi. Hein,
Bien sûr.
Là, vous avez insisté. La mondialisation, c'est un problème plus qu'un cadre. La mondialisation ne remplace pas la modernité, si je veux dire, comme grand récit.
D'accord.
Hein, ça reste problématique.
D'accord. Dominique Pestre.
Ben, comme toujours, c'est toujours pareil, ça. Quand vous avez fini un livre ou une affaire aussi monumentale que celle-là, c'est là que vous comprenez.
Vous avez envie du volume d'après, non, c'est ça?
Non, c'est comment on aurait pu faire mieux, évidemment. C'est une fois qu'on l'a fait qu'on sait.
Oui.
Donc moi, il y a trois choses, plusieurs choses, mais il y en a trois. Je pense que, ça reste finalement, et malgré tout, on est quand même très eurocentré. Statistiquement. Ça ne veut pas dire que c'est faux, ça ne veut pas dire que ça n'a aucun... Mais bon, voilà, je pense que les décentrements que nous avons voulu faire, et qui sont énormes par rapport aux histoires du même type qui existent, hein, oui. Je vous promets. Néanmoins, on se dit, on n'a pas été jusqu'au bout. Bon, la deuxième chose, moi, qui me frappe, je suis d'accord avec Kapil, du côté des sciences de l'esprit, des humanités, on n'est pas allé très loin. On n'a pas trop touché aux humanités, aux sciences de l'esprit. C'eût été extrêmement intéressant. Et Kapil lui-même aurait très bien pu le faire sur les langues, etc. Et puis, il y a un problème plus compliqué peut-être, qui est que les sciences ont été soumises dans la période des 40 dernières années à des critiques fortes, qui sont les critiques des social studies of science, dont nous sommes les héritiers. Nous, ça fait pas d'un doute. Mais on a eu la même chose avec les féminismes et les études genre. On l'a eu avec les études coloniales et postcoloniales. Donc, on a eu un flot de critiques. Alors, nous les avons prises comme étant évidentes. Mais je me demandais, on en a parlé il n'y a pas très longtemps en séminaire, mais si on devait y repenser, comment on pourrait intégrer explicitement cette critique dans cette histoire? Et on n'a pas su le prendre. Bon, c'est pas forcément dramatique, parce qu'au fond, nous avions accepté un certain nombre de choses, mais on ne l'a pas problématisé, et je pense que ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense que ça pourrait être intéressant.
Et un autre livre en perspective, en tout cas, moi, il faut quand même renvoyer, et avec bonheur, sur cette histoire des sciences et des savoirs édités au Seuil, en trois volumes, hein, et que vous avez dirigé Dominique Pestre, et puis avec Kapil Raj, Stéphane Vandamme, merci à vous. Et puis d'autres, on n'a pas cité Bonneuil, mais voilà, il y avait aussi... Christophe Bonneuil dans cette aventure, et puis les 70 contributeurs. En tout cas, voilà, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même une petite révolution dans ce monde de l'édition de l'histoire des sciences. Vous restez avec nous, autre pan de cette histoire des sciences qui peut vous intéresser, Einstein et les ondes gravitationnelles.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Seconde partie, actualité des sciences et de leur histoire, en partenariat avec le magazine Pour la Science, qui fait paraître un numéro spécial. Einstein, la relativité générale, 100 ans après, et dans ce numéro très riche et complet, et toujours aussi exigeant d'ailleurs, un article écrit par deux scientifiques, Loïc Villain et Damir Buskulic, sur les ondes gravitationnelles, et avec nous, justement, en duplex depuis nos studios de France Bleu Tour, Loïc Villain, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'université le François Rabelais et au laboratoire de mathématiques et de physique théorique de Tours, enseignant et chercheur. Et là, on va le percevoir, on écoute comme vous. Et vous êtes à l'écoute, justement, de ces ondes gravitationnelles. Vous allez pouvoir nous dire, on écoute quelques instants, et puis vous allez nous dire précisément de quoi il s'agit. Loïc Villain, c'est quoi précisément ça ?
Ça, c'est l'équivalent sonore d'une image en fausse couleur. Vous savez, souvent, quand on présente des photos d'étoiles, comme on les a observées en lumière invisible, entre guillemets, c'est-à-dire en infrarouge, en radio, on fait des images en transposant, en faisant des équivalences entre les couleurs invisibles et les couleurs visibles. Mmh. Et là, on a un peu la même chose qui est faite pour entre ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles proprement dites et donc un son que l'on peut écouter. Et donc, au bout du compte, l'onde gravitationnelle physiquement, c'est une variation périodique. On entend que le signal change au cours du temps. Il a une certaine régularité tout en évoluant.
Oui.
Et donc ce signal, il correspond à plusieurs choses physiques à la fois, en particulier des variations de ce qu'on pourrait appeler la force gravitationnelle, la force de pesanteur, celle qui nous maintient sur Terre, par exemple.
Alors, je ne sais pas si on aura le temps dans justement ces 8-9 minutes dont nous disposons, hein, Loïc Villain, pour rentrer dans ce qu'est la relativité générale. En tout cas, ces ondes gravitationnelles, Einstein en a parlé, il n'est pas parti de rien d'ailleurs. Hein, et c'est ce que vous remettez en perspective dans l'article que vous nous proposez dans Pour la science, c'est le fait qu'il y a eu des précurseurs avant lui, et notamment Newton.
Voilà, c'est-à-dire que la relativité générale, c'est donc dont on fête le centenaire cette année, c'est une théorie qui a complètement bouleversé nos conceptions de l'espace, du temps, et qui à la base avait deux objectifs, décrire la gravitation, et le deuxième objectif était de le faire de manière compatible avec la relativité restreinte, donc une autre théorie qui avait été présentée en 1905 par Einstein et évidemment développée par plusieurs autres personnes également. Et donc la gravitation, à cette époque, la description qui existait et qu'on utilise en fait encore dans beaucoup de circonstances, c'était celle qu'avait proposée Newton au XVIIe siècle, selon laquelle, par exemple, une pomme tombe par terre ou la Lune tourne autour de la Terre parce qu'il existe une force entre tout objet dans l'univers, une force attractive qu'on appelle universelle parce que justement, elle s'exerce entre tous les objets. Et donc, ce qu'Einstein a compris et expliqué au début du XXe siècle, c'est qu'en fait, si la Lune tourne autour de la Terre, ce n'est pas parce qu'il existe une force entre les deux, c'est parce que la Lune va tout droit, mais la Terre modifie la géométrie, les propriétés de l'espace, un peu ce qu'on visualise parfois à l'aide d'une toile tendue sur laquelle on met une grosse masse, ça oui. La déforme. Mmh. Et si maintenant vous lancez une petite bille sur cette toile tendue, elle va être déviée. En l'absence de la grosse masse, elle va tout droit. Et en présence de la grosse masse, elle est déviée, voire elle peut tourner, se mettre à tourner autour de la grosse masse. Et donc, d'après Einstein, les phénomènes gravitationnels correspondent grossièrement à cette image. La Lune tourne autour de la Terre parce que ce qu'on pourrait appeler le tissu espace-temps, entre guillemets,
oui,
est déformé par la présence de la Terre.
Alors du coup, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'aujourd'hui, ces recherches continuent. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, Newton et puis d'autres, hein, d'ailleurs, hein, on ne peut pas citer tous les personnages de l'histoire des sciences que vous nous présentez dans l'article, mais justement, on renvoie sur l'article du magazine pour la science. Mais jusqu'aux années 70, d'ailleurs, on a douté de l'existence des ondes gravitationnelles. Mais depuis, des recherches sont menées et des recherches sont toujours en cours. Et on les piste, en fait, dans cet espace.
Oui, alors en fait, les recherches sont menées depuis 1917, en gros l'époque à laquelle Einstein réalise que sa théorie prédit l'existence d'ondes gravitationnelles. Mais il y a deux types de recherches. Il y a des recherches d'abord théoriques pour montrer que c'est effectivement le cas, parce que dire qu'un phénomène physique existe d'un point de vue théorique, ça veut dire faire un calcul précis et arriver jusqu'à la prédiction d'effets observables, mais par des calculs rigoureux, etc. Et la relativité générale est une théorie tellement compliquée qu'il y avait des raisons de douter de l'existence, dans le cadre de la théorie, de l'existence théorique des ondes jusque dans les années 70, voire même pour certaines personnes plus tard. Et donc l'autre volet, c'est le volet observationnel, qui lui a débuté grossièrement vers les années 70 aussi, parce qu'à cette époque, justement, on a observé on a découvert des objets astrophysiques qu'on appelle les trous noirs, les pulsars, les étoiles à neutrons, etc., qui peuvent être des sources notables de ce rayonnement. Car il a la particularité de pouvoir être émis par n'importe quelle masse qui bouge, mais la plupart du temps, c'est de manière complètement négligeable, et donc pas pertinente du tout.
Alors on va écouter un deuxième son justement que vous nous avez proposé par rapport à ces ondes gravitationnelles. On l'écoute voilà, tout de suite, qui est très différent. Alors, allez-y,
Loïc. Le premier son et le deuxième son correspondent tous les deux au cas où on a un petit trou noir qui est en train d'orbiter autour d'un trou noir supermassif comme on en a au cœur de toutes les galaxies. Dans le premier cas, on avait un signal qui paraissait beaucoup plus régulier, moins variable que le deuxième.
Oui, et qui s'emballait, hein, qui était plus long, mais qui s'emballait comme une sorte de soucoupe volante, j'ai envie de dire. Hein.
Voilà, c'est parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que le petit trou noir tourne autour du gros. Ce faisant, il perd de l'énergie, donc il y a des ondes gravitationnelles qui sont émises, qui emportent cette énergie, donc qu'on peut voir comme des vibrations de ce tissu espace-temps. Et comme le système perd de l'énergie, le petit trou noir finit par tomber dans le gros. Dans la première bande sonore que vous avez proposée, donc, que j'ai récupérée sur Internet et qui ont été faites par des gens qui travaillent justement sur la détection des ondes gravitationnelles. Donc, dans le premier cas, on avait un trou noir petit qui était en orbite circulaire autour du gros. Dans le deuxième cas, l'orbite est plus elliptique. Et du coup, elle varie. Donc la trajectoire est une ellipse, quelque chose qui est moins régulier qu'un cercle. Et cette différence de régularité spatiale se traduit par une différence de régularité dans le son.
Alors dites-nous, Loïc Villain, aujourd'hui donc, on étudie ces ondes gravitationnelles avec d'énormes interféromètres géants. Il y a le Virgo et puis le LIGO, c'est ça, Virgo en Italie, si je ne m'abuse, LIGO aux États-Unis. Dites-nous juste, en une minute, il nous reste une minute, à quoi ça sert ces études-là? Qu'est-ce qu'on cherche à savoir?
Alors, ce ne sont pas les seules expériences, ce sont les principales, mais bon, je n'aurai pas le temps de mentionner qu'il y en a par exemple une autre en projet en Inde ou dans l'espace. Donc d'ailleurs, oui, dans l'espace, ça je vais quand même le mentionner parce que...
C'est l'actualité du 2 décembre prochain, c'est ça?
Exactement, oui, le 2 décembre, il y a un prototype de détecteur qui va être envoyé dans l'espace depuis Kourou. Et donc, le but d'étudier ces ondes, un des buts de l'étude de ces ondes gravitationnelles, c'est de comprendre les sources, donc les trous noirs, les étoiles neutrons, des objets qui sont très lointains et sur lesquels on ne peut pas faire des expériences directement. Un autre volet, c'est de comprendre la gravitation. Et puisque la gravitation, on a compris que c'était l'espace-temps, ça veut dire comprendre aussi l'espace et le temps. Oui. Et donc, de manière générale, c'est de comprendre à la fois la physique fondamentale, la nature des choses, mais également... des objets astrophysiques comme les étoiles à neutrons, les trous noirs.
Merci en tout cas Loïc Villain, merci beaucoup. On renvoie, parce qu'on pourrait en discuter encore pendant très longtemps, mais on renvoie bien sûr sur votre article signé avec Damir Buskulik à l'écoute des ondes gravitationnelles à retrouver dans le numéro spécial pour la science Einstein, la relativité générale, et d'autres articles que vous avez écrits notamment pour Futura Science en lien sur notre site franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences, et vous pouvez réécouter l'émission 1000 jours, la télécharger pendant un an, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je voudrais aussi signaler, on va mettre le lien, le concours Bulle au carré lancé pour la 5e saison. Amateurs de BD et de mathématiques, à vos crayons sur le thème maths et santé. Vous avez jusqu'au 25 janvier 2016 pour envoyer vos œuvres. Et c'est la fin de La Marche des Sciences. Merci de nous avoir suivis. Merci à Catherine Donnet, Anaï Morales pour les archives, Sandrine England de la documentation sonore de Radio France, Romain Couturier de la discothèque, à la réalisation Alexandra Malka, à la technique Jean-Guilain Mège et Grégory Jean Juravert.